Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
C'est aussi la vocation de l'Académie des sciences morales et politiques en particulier, de s'interroger sur, bien sûr, l'évolution de notre société, de porter un regard précis, scientifique quasiment, sur les évolutions que nous connaissons. C'est aussi notre vocation de s'interroger sur le regard et sur l'image que donne la France, que donnent les Français à l'étranger, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes aussi. Et je reprends une bonne formule de l'un de nos invités, puisque nous sommes trois ce matin. Nous sommes trois à évoquer en particulier les stéréotypes et prototypes nationaux en Europe avec vous, Christophe Campos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'ex-directeur de l'Institut britannique à Paris. Il y a une phrase pour présenter ce colloque dont nous allons parler avec nos deux autres invités également. Une phrase que je trouve assez bien tournée. Le regard sur l'autre qui comprend en creux une image de soi est une réalité humaine qui n'est pas appelée à disparaître et qui doit surtout être comprise. C'est comme cela que vous allez situer votre propos. Vous avez en particulier étudié les représentations des Européens dans Astérix. Voilà, donc ça fait aussi partie de notre littérature. Également avec nous, Jean-Benoît Nadeau et Julie Barlow. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors je dis bonjour à tous les deux puisque vous êtes tous les deux auteurs d'un ouvrage intitulé « Pas si fou, c'est français » aux éditions du Seuil. C'est une traduction de l'anglais déjà.
Oui.
Oui. Vous l'avez écrit en anglais au départ?
On l'a écrit en anglais.
Sous le titre « 60 million Frenchmen can't be wrong ». 60 millions de Français ne peuvent se tromper.
Et vous n'avez pas voulu avoir le même titre en français?
Ça faisait 30 millions d'amis un peu. Et donc, on a décidé de trouver un autre concept complètement différent.
Bon, là, on aura remarqué que vous connaissez particulièrement les mœurs françaises, puisque vous connaissez l'émission 30 millions d'amis, ce qui n'est peut-être pas donné à tout le monde.
Mais aussi, l'autre raison, c'est que finalement, le titre, c'est un livre qui avait été écrit pour des lecteurs nord-américains et on les prenait à contre-pied de toutes les idées qu'ils ont sur les Français. Dire aux Français, 60 millions de Français ne peuvent avoir tort, ça les confortait un peu trop dans certaines de leurs certitudes. C'était dangereux.
Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être avec nous, vous qui venez de l'autre côté de l'Atlantique, pour apporter ce regard qui est le vôtre. Précisons-le d'emblée, c'est le fruit d'une enquête quand même extrêmement fouillée, parce que vous êtes resté dans le pays des mois et des mois et des mois et pour en étudier tous ces aspects qui n'avaient jamais été faits auparavant par des Nord-Américains.
Pas de façon détachée comme on l'a fait. C'est-à-dire qu'on était... Premièrement, non-américain, canadien, mais boursier d'une fondation américaine. Donc, je crois pas que bien des journalistes aient eu la chance d'étudier les Français sans aucune contrainte pour une période aussi longue. Deux ans, plus de deux ans.
Et c'est un luxe, hein? Dans la presse, c'est un luxe. Hein?
Oui.
Voilà, puisque je souligne aussi que vous êtes journaliste pour un magazine d'actualité, L'Actualité, magazine canadien, qui est à peu près l'équivalent de l'Express ou du Point chez nous. Hein.
C'est entre l'Express et le Nouvel Observateur. C'est un magazine d'extrême-centre.
D'extrême-centre. Voilà. Donc vous n'entrez pas dans les controverses idéologiques qui caractérisent aussi l'esprit français. C'est la première chose que vous avez observée?
Vous avez une culture de la dispute et de l'éloquence aussi qui est très, très forte. Et ça apparaît même dans la façon dont les textes sont écrits dans les quotidiens, les magazines.
Et nous, au tout début de notre séjour ici, on ne comprenait pas la différence entre la gauche et la droite en France. C'est tout semblait à nos yeux assez de gauche chez nous, qui c'est-à-dire d'intervention interventionniste. L'État qui intervient beaucoup dans la vie des gens. Et donc, ça nous a pris du temps à comprendre même la différence entre droite et gauche ici. Et même en ce moment, des fois, on a un petit peu discuté avec ça.
Même la droite française serait considérée à gauche au Canada. Il y a comme un déplacement du spectre dans les valeurs aussi. Il faut en tenir compte quand on couvre ces questions-là.
Alors, Christophe Campos, vous qui avez étudié les stéréotypes et les prototypes nationaux, vous entrez aussi dans la logique décrite par nos deux interlocuteurs. Une exception française, il y a déjà une exception française.
Dans la mesure où les Français se voient différemment des autres, vous voulez dire.
Par exemple.
j'ai organisé ce colloque pour le compte d'un organisme qui s'appelle le Forum des langues européennes à Paris. C'est une réunion de 10 instituts qui enseignent les langues européennes. Et quand on enseigne une langue, on enseigne une image du pays. C'est important de savoir ce qui est véhiculé par les manuels, consciemment ou non, et ce que les gens attendent de la langue, parce qu'ils ont déjà des images, des stéréotypes en tête sur le pays qu'ils découvrent. Donc il est important de savoir comment ça fonctionne. Et on dit couramment en Europe que les choses sont en train de s'aplanir, les nations vont disparaître, etc. Pas du tout. Les Européens conservent des images très, très fortes, très stéréotypées d'eux-mêmes et les uns des autres. Donc il faut les connaître, il faut les étudier voilà. pour savoir comment ça fonctionne.
Alors justement, peut-on avoir une idée précise du stéréotype à la française ?
Du stéréotype que les Français ont d'eux-mêmes ou des autres ?
Eh bien les deux.
Personnellement, je connais mieux les stéréotypes que les Anglais ont des Français et des Français ont des Anglais, mais enfin, ça c'était ma spécialité. Mais bon, les Français trouvent qu'ils sont normaux, comme tout le monde. mais en général, quand on se définit dans une région comme l'Europe, par opposition aux étrangers. C'est-à-dire il faut regarder les stéréotypes que les Français ont des Anglais, des Suisses, des Espagnols, des Italiens, ceux qui les entourent, pour comprendre que ce que les Français trouvent chez les Suisses, eh bien, c'est le contraire chez eux. Donc, si les Français considèrent, par exemple, les Anglais comme hypocrites, c'est une vérité très ancienne, eh bien, c'est que eux ne le sont pas. Si les Suisses sont trop méticuleux, c'est que les Français ne le sont pas. Donc, ce sont des négatifs.
C'est toujours par contraste.
C'est par contraste. Les étrangers servent à réfléchir à soi indirectement.
On s'oppose en s'opposant.
Voilà.
Jean-Benoît Nadeau.
C'est intéressant parce que nous, la première année où on est arrivé, nous, on était venus avec une question très stéréotypée pour étudier les Français. C'était pourquoi les Français résistent à la mondialisation? Parce que, en Amérique du Nord notamment, les Français résistent toujours à quelque chose. Font quelque chose, c'est toujours eu les pires. Là, c'est l'extrême droite. Hein? Il y a l'extrême droite partout en Europe, mais les Français, l'extrême droite française, dans l'esprit du Nord-Américain, c'est toujours la même chose. C'est toujours singularisé. Et on avait été frappé du fait que, quelques mois après notre arrivée, cadeau du ciel, José Bové démantèle un McDonald's à Millau. Et nous sommes allés, avec Julie, il y a eu un article à faire pour l'actualité à Montréal sur ce sujet-là, nous sommes allés au Larzac, etc. Mais tous les clichés sur cette question-là étaient réunis de part et d'autre. C'était absolument fascinant. Et avant même d'être capable d'étudier cette question-là, ce qui était dit, ce qui n'était pas dit, il fallait examiner tous les clichés, bien comprendre ce qu'ils étaient, ce que les gens disaient, pourquoi ils le disaient. Une fois qu'on avait fait ça, on pouvait faire table rase de ça et examiner les faits. Mais les clichés étaient tellement puissants sur cette question-là qu'il
fallait les éprouver, voir oui. s'ils correspondaient à une réalité.
Oui, oui.
Mais voilà. Même le cliché, même Julie l'idée Barlow. Que José Bové est contre la mondialisation, c'était pas du tout le cas. Il était pour une vision de la mondialisation, bien à la française, bien à José Bové. C'était pas du tout aussi simple que ça en avait l'air, quoi. Mais nous sommes arrivés en France à un moment où il y avait beaucoup, beaucoup des idées préconçues, beaucoup de préjugés, beaucoup. Ça circulait beaucoup. Les classiques sur les Français, du genre touristes qui arrivent et qui trouvent les Français arrogants et tout ça. Mais aussi au niveau de l'État. L'État ne marchait pas, ça ne se peut pas. Il y avait trop de bureaucratie, l'État était trop énorme, etc. Et nous, on a décidé, on a regardé autour de nous et on voyait une société qui fonctionnait quand même assez bien, compte tenu du genre de discours sur ce qui se passait. Alors, on est reparti avec une nouvelle approche pour essayer de comprendre comment tous les morceaux, comment tout fonctionnait ensemble. Comment, pour essayer de percer les préjugés et expliquer comment, pourquoi les choses étaient comme elles sont.
Et donc, voilà. Vous avez changé, en fait, votre sujet. Ce n'était plus la résistance à la mondialisation. C'était tout à fait autre voilà. chose. C'était d'essayer de comprendre les paradoxes de la société
oui,
française.
Oui, et pourquoi on croit que les Français résistent alors qu'ils ne résistent pas. Ce qui est beaucoup plus intéressant. Ouais. Toute cette idée-là, par exemple, les amalgames qui ont été faits sur José Bové, où il était dépeint en Astérix, tout était là, c'était absolument ouais, voilà. fascinant, l'Astérix du Larzac, et là, il y avait lui, il jouait avec ça, hein. Nous, on a rencontré Bové, sa besace, sa musette, sa pipe, sa moustache, lui-même jouait avec ce stéréotype. C'était un dossier extrêmement complexe.
C'est du cinéma, alors.
Il y avait une dose de cinéma là-dedans qui était très, très forte. Tout sa concept, vous savez, sa conception de résistance pacifique active, inspirée de Gandhi. D'ailleurs, tous les paysans du Larzac ont une photo de Gandhi dans leur maison à côté du crucifix. Et c'est toute cette idée-là qu'il faut agir de façon pacifique, mais c'est essentiellement basé sur une manipulation des médias et donc des stéréotypes. Hein. Tout ça, le démantèlement du McDonald's était une entreprise de manipulation des symboles. Eux-mêmes, l'incident avait été déclenché par une volonté des Américains de manipuler un autre symbole, c'est-à-dire qu'il y avait surtaxé des produits alimentaires français symboliques comme le Roquefort, etc., plutôt que de s'attaquer au fond du problème. C'était très, très intéressant. On était dans la symbolique, de la sur-symbolique. C'était extraordinaire.
Mais alors, pour mener une telle enquête, il ne faut pas non plus se laisser piéger par l'image que renvoient les médias, parce qu'on est aussi dans un jeu strictement médiatique. Donc, pour faire la part des choses entre ce qui relève du stéréotype intimement partagé par toute une population et ce qui relève du stéréotype médiatique fabriqué de toutes pièces, il y a peut-être une nuance.
Ces stéréotypes-là sont...
Que José Bové joue sur les médias à fond, par exemple.
C'est ça. Bien des gens m'ont dit parfois, à propos de notre livre ou un autre que j'ai écrit, « Ah, tu joues avec les stéréotypes. » Mais c'est parce qu'à mon avis, les stéréotypes ne sont pas faux.
Mais c'est quoi alors? C'est l'arrogance, c'est
ces stéréotypes-là? Ben, l'arrogance, la culture de la grandeur, l'éloquence, le jusqu'au boutisme.
L'élitisme. C'est très important dans l'idée des
Français. En fait, le fond aristocratique.
Le fond aristocratique, entre autres, très très fort. Dans le cas de Bové, c'était le fond paysan. Espèce d'idée mythique du français paysan, alors que 98% de la France n'est plus paysanne du tout.
L'attachement à la terre, en fait.
L'attachement à la terre, c'est rêvé. C'est des idées très rêvées, ça.
Mais ce qu'on a découvert, c'est qu'il y avait beaucoup de clichés, il y avait une vérité. Dans l'élitisme français, par exemple, il y a une vérité. Mais ce n'est pas aussi simple que l'image qui est véhiculée. Et l'image qui est véhiculée, surtout dans les médias américains, est précisément le contraste. Des États-Unis. Alors, les États-Unis accusent la France d'être élitiste parce qu'ils se voient comme étant pas élitiste du tout. C'est pas du tout vrai. C'est juste que les Français affirment leur culture élitiste ouvertement. Les Américains le sont. Hein. Il n'y a pas de doute. Ils créent une élite et c'est encore plus élite à bien des égards que la culture ici. Mais c'est pas affirmé. C'est une grande différence entre les deux sociétés, ce qu'ils affirment et ce qu'ils n'affirment pas. Mais les clichés servent, les clichés, les images, les préjugés, c'est clair qu'ils servent à quelque chose.
Donc si je vous suis bien, il y a bien des clichés, bon, entretenus plus ou moins, exploités aussi par les médias et ceux qui se servent des médias, mais qui ont un fond de vérité, qui renvoient au mythe de la société française que vous avez un peu décrit. Peut-être l'idée aussi de nostalgie d'une forme de société qui, là ça renvoie aussi à la mondialisation, qui est dépassée par la mondialisation, qui est la société rurale, classique, à laquelle les Français étaient peut-être très attachés et qu'ils sentent se dérober sous leurs pieds?
Oui et non. Non. Je pense qu'il y a une nostalgie, mais je pense que les paysans comme José Bové profitent très très bien de la mondialisation. Je pense qu'il n'y a pas de paradoxe. Lui, il exporte son Roquefort. Hein.
Il en joue, par exemple, pour ne citer que lui. Les Français en jouent, mais ils ne sont pas victimes, je veux dire par là.
Oh, je crois pas. Je crois pas qu'ils sont victimes de la nostalgie à ce point-là. Pas dans ce contexte-là. Peut-être dans d'autres contextes, oui. Mais non, je pense pas. L'agriculture française, en fait, ce qu'on on explique dans le livre, la façon que les Français sont capables de garder un système en place pour pouvoir produire des produits de luxe comme le Roquefort dépend des subventions. Et les paysans, les gens valorisent assez ce genre d'agriculture pour contribuer, pour maintenir un système en place qui produit un certain genre de, nombre de produits de qualité, quoi. C'est le choix des Français. Les Américains critiquent les subventions, mais en fait, c'est le choix des Français de maintenir ces subventions ou non. Je pense qu'il y a une nostalgie, mais je pense qu'il y a une vérité. Je pense que les gens valorisent vraiment 95%, par exemple, du Roquefort qui est produit en France est mangé et consommé en France. Donc.
Voilà, alors ça, c'est le signe aussi d'une bonne santé, d'une forme de fidélité.
Oui, je crois qu'il faut peut-être penser aussi au concept de mythe de fondation. Parce que j'en suis très conscient à propos du cycle Astérix, et ce que vous venez de dire de José Bové semble rejoindre ça. L'un des mythes de fondation de la France, c'est la résistance à l'ennemi, à l'occupation. Elle a été affirmée par les historiens de la Troisième République, qui disaient nos ancêtres les Gaulois, c'est-à-dire les Gaulois qui avait un peu résisté aux Romains et avait survécu aux Romains.
C'est ça.
Et ce mythe redevient très important après la Deuxième Guerre mondiale où il y a le mythe de la résistance, ce qui n'est pas entièrement un mythe, mais la résistance à l'occupation allemande est mythifiée dans les années qui suivent. Et donc, on refonde la France à partir d'une résistance à l'étranger. Je pense que c'est pas par hasard que Bové se voit un petit peu en Astérix.
Non, c'est une
façon que la France utilise pour se relancer contre l'étranger.
On marque une première pause.
Canal Académie.
Éclairage avec nos invités pour discuter, j'allais dire, de manière libre et en même temps assez approfondie hein, quand même, avec Jean-Benoît Nadeau, Julie Barlot, Passifous et Français aux éditions du Seuil, Christophe Campos, qui est ex-directeur de l'Institut britannique de Paris, donc deux journalistes canadiens qui viennent avec leur regard sur la réalité française. Ils se sont imprégnés de nos mœurs pendant plus de 2 ans. Christophe Campos, vous disiez à l'instant que la réalité française s'était fondée sur l'idée de résistance par le biais d'Astérix. C'est encore vivace aujourd'hui. Est-ce que c'est encore, je dirais, est-ce que c'est encore une raison d'être ? À quoi résister ? À quoi devons-nous résister aujourd'hui ? Et n'est-ce pas non plus, je dirais, aiguiller les Français dans une impasse, celle d'une résistance à une mondialisation dont ils pourraient profiter, dont vous avez montré qu'ils savent aussi en profiter ?
Je ne pense pas que ce soit un problème grave, c'est une façon de vivre. Les Français vivent et se redéfinissent périodiquement par opposition à l'étranger. Ils aiment bien les oppositions, les confrontations, si vous voulez. Et l'idée de confrontation est très française, en politique, en affaires internationales. Dans le colloque dont il a été question tout à l'heure...
Mais c'est une force ou une faiblesse ?
C'est une caractéristique.
Ben, je suis d'accord avec monsieur. Ce qui est caractéristique des Français, c'est d'essayer de voir dans cette caractéristique-là une force ou une faiblesse de façon définitive. Ça, c'est français. Ouais. Mais ce n'est qu'une caractéristique qui est à quelques moments une force et à quelques moments une faiblesse. Excusez-moi, monsieur Campos, je vous interromps.
Vous avez raison. Mais j'allais dire que nous avons eu un papier très intéressant dans ce colloque par une néerlandaise sur la difficulté qu'il y a à traduire du néerlandais au français un certain nombre de mots qui sont couramment employés en politique aux Pays-Bas et qui impliquent l'égalité des opinions, une certaine concordance entre des opinions différentes et une volonté de vivre ensemble dans une société un peu multipolaire. Et il y a un certain nombre de mots qui reviennent dans la politique et qui sont très difficiles de rendre en français. L'un d'eux, c'est la pilarisation. Je ne pense pas qu'il soit encore dans les dictionnaires. C'est le concept que la société est bâtie sur un certain nombre de piliers différents mais qui coexistent. Ça, c'est pas vraiment un concept français, même si ça existe en France. Les Français se refusent à ce genre de compromis.
C'est rendu de façon imprécise par le mot communautarisme. Souvent, c'est un termes périphrases utilisés pour ça.
Mais on est venu un peu à la même conclusion. Il y a énormément de termes. En fait, notre livre consiste à beaucoup de traductions de termes qui sont non traduisibles pour l'américaine qui arrive en France, dont le mot l'État, laïcité, assimilation, fédéralisme, communautarisme, intérêt général qui n'ont aucun sens ou bien qui sont vus carrément comme des concepts négatifs.
Mais ça n'a aucun sens. L'intérêt général, ça a quand même un sens.
L'intérêt n'a aucun sens pour l'Américain. Ils ne comprennent pas du tout.
Ce sont des abstractions académiques. Dans les universités, ils l'étudient tous. Mais ça n'a pas de mode opératoire en politique. On ne peut pas invoquer l'intérêt général. Ils vont le faire... Ils vont le faire, mais ils vont le faire en grinçant des dents, vraiment, parce qu'il y en a de l'intérêt général. Il ne faut pas se le cacher, là. Ces concepts-là existent, mais ils ne sont pas affirmés de la même manière.
Mais c'est essentiel, c'est fondamental pour comprendre comment la France fonctionne. Et pour un Américain qui arrive ici, c'est...
Mais alors, on fonctionne sur des idées un peu toutes faites, dont on n'a pas de mode opératoire, on ne sait pas trop comment ça marche, mais ça marche et en tout cas, ça fait avancer la société.
Je pense que ça fonctionne. Je pense que les modes opératoires sont là. Il y a l'État, les trois piliers de l'État sont l'assimilation, l'intérêt général, l'égalitarisme. Tout fonctionne. Ça rentre dans un discours. Parfois, c'est bien appliqué, parfois, c'est mal appliqué. Mais tout le discours est autour de ça. Et c'est un discours, on dit ça à un Américain là, ou un Canadien, puis... Ses yeux, il prend des yeux de merlan frit, là. Tout de suite, là, les yeux deviennent vides, bleus, comme une espèce de cataracte, là. Puis là, il ne voit plus rien. Là. Vraiment, j'ai testé. Là. Nous, on a eu plus de 75 invités américains et canadiens chez nous pendant les 3 ans qu'on a été.
Oui, vous avez reçu beaucoup de monde pendant votre enquête.
Et on a passé par exactement les mêmes choses, les mêmes a priori, les mêmes ignorances. Monsieur Campos a tout à fait raison de l'idée de la résistance, à quel point elle est importante dans la façon dont les Français se perçoivent eux-mêmes et définissent leur univers. Extrêmement importante dans la façon dont les Anglais, les Britanniques et les Nord-Américains perçoivent les Français.
Mais on pourrait dire qu'au Québec aussi, l'idée de résistance est une réalité.
C'est une réalité également.
Elle ne devrait pas vous surprendre.
Pour des raisons distinctes. Vous savez, la Deuxième Guerre mondiale a été un épisode tellement fort dans l'histoire de tous les peuples que... Leur expérience conditionne, à mon avis, très, très large part de leur perception du monde. C'est comme une espèce de date zéro. Et c'est une des raisons pour lesquelles on consacre un chapitre dans notre livre sur la Deuxième Guerre mondiale, qui est trop court, hein, qui est trop court pour les Américains, qui est trop court pour les Français, que bien des gens trouvent trop court. On pourrait écrire une librairie entière sur ce sujet-là. Mais il est déterminant que bien des idées que les Américains charrient sur les Français émanent de cette période-là. Et bien des idées que les Français charrient sur eux-mêmes émanent aussi de cette période-là. Et on n'en sort pas. Hein? On n'en sort pas. Moi, je me suis fait poser des questions par des femmes d'ambassadeurs américaines. Pourquoi les Français sont-ils si ingrats? Je me suis fait poser ça il y a 2 ans, cette question-là, par des gens qui avaient vu neiger, comme on dit au Canada, qui en avaient vu d'autres. Ils tombaient encore dans les mêmes ornières.
Faut dire, on a lancé notre livre en anglais pendant la guerre en Irak. Et donc, en pleine période de francophobie aux États-Unis, avec un titre quand même assez provocateur, 60 millions de Français ne peuvent
pas entendre. Oui, c'est certain.
Et voilà, et c'est une question qu'on a souvent eue en entrevue. Pourquoi les Français sont-ils si ingrats par rapport à la Deuxième Guerre mondiale?
De Gaulle était un grand fabricateur de mythes. C'était un manipulateur de premier ordre. Et on est allé visiter Oradour-sur-Glane. Ce qu'a fait Oradour-sur-Glane était extraordinaire. C'est une tragédie qui est arrivée à un moment X dans l'histoire de France. Et il y avait une certaine neutralité dans les victimes d'Oradour. Ils n'étaient ni de la gauche, ni de la droite. Ils n'étaient ni collaborateurs, ni résistants. Ils n'étaient ni juifs, ni non-juifs. Ils n'étaient rien de ces groupes-là qui étaient en guerre civile larvée. Donc, cette tragédie-là a été utilisée comme le grand symbole de la victimisation de la France. Et on a tout fait même pour maintenir le mythe. Je ne sais pas, M. Campos, êtes-vous déjà allé à Oradour-sur-Glane? C'est absolument fascinant. La ruine est maintenue en tant que ruine. Ça coûte une fortune à maintenir la ruine, mais c'est pour maintenir le symbole extraordinaire.
Oui, c'est maintenu en l'état de cette journée du 10 juin 1944.
En son état de ruine authentique, c'est absolument fascinant.
Alors, à vous suivre, Christophe Campos, d'abord.
Je pense qu'il y a un autre concept, je pense, dont il faut parler. C'est un mot typiquement français ou une expression, une mise à plat. On parle souvent en France de la mise à plat. Il y a des choses qui ne vont pas, donc on va mettre à plat. On recommence à partir de rien. On renégocie, on redéfinit les choses. C'est une conception qui n'est pas partagée par d'autres Européens, qui ont l'habitude plutôt de s'arranger, encore une fois, de parler de compromis, alors qu'en France, on est beaucoup plus radical. Et cet esprit radical est souvent perçu à l'étranger comme, je parle de l'Europe en particulier, comme dangereux. Les Anglais, depuis 1789, ont l'impression que les Français font des révolutions dangereuses tous les 30 ou 40 ans et que ça risque de se propager ailleurs. C'est un mal français, la révolution. Alors, en France, la révolution, c'est une mise à plat. Les choses ne fonctionnent pas. On laisse jusqu'à la catastrophe et puis on remet à plat. Je ne sais pas si vous percevez ça du point de vue de Nord-Atlantique.
C'est intéressant, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec le Code civil. Quand je revois, il y avait cette espèce d'accumulation de lois, ils ont dit non, fini, remise à plat, et ils ont reparti ça. Mm. C'est très intéressant, j'avais jamais...
Et moi, j'observe la France depuis 50 ans, et j'ai toujours l'impression qu'elle attend très longtemps, au moment où les choses vont de plus en plus mal.
Jusqu'à un point de rupture.
Tout à coup, et un point de rupture, et puis elle refait à neuf. Je pense par exemple au RER. Le métro a vieilli pendant 50 ans. Il était invivable. Tout à coup, on crée le RER.
On procède par à-coup.
Par à-coup, on fait de très belles choses, mais alors que d'autres feraient des réformes progressives. En France, on aime bien faire ça par révolution.
Alors, à vous suivre, on a un sentiment qu'il y a les héritages qui servent de vivier à nos représentations symboliques. Ce sont, il y a peut-être l'ancien régime avec l'idée aristocratique, grandeur de l'État, qui est apparu sous l'ancien régime, la Révolution et puis la Seconde Guerre mondiale. Ce seraient les trois référents symboliques.
À l'heure actuelle,
Jean Benanado.
Moi, j'ai l'impression, je vois même depuis, pendant notre arrivée, j'ai vu Louis XIV être décrit comme un roi républicain. François Ier est décrit comme roi républicain. C'est très intéressant pour un Nord-Américain, cette idée-là est extrêmement intéressante parce que pour nous, il y a une rupture entre la démocratie et ce qui a précédé. Et vous, non, on voit au contraire, là, bien sûr, vous avez fait la Révolution, mais la République enseigne toujours ses grands rois qui sont Louis XIV, qui sont François Ier, Henri IV, les grands fabricateurs de l'État.
Donc, il y a quand même une continuité par l'État.
Elle est là. Elle est là. Bon, je crois que bien des historiens se disputeraient comme de façon violente sur ces questions-là. Mais il n'a fait aucun doute qu'une partie de l'intelligentsia française et les représentations qu'on voit dans les livres, les manuels scolaires, sont clairement des tentatives pour rentrer ces rois-là dans un moule républicain. Là. Bien sûr, ce sont des vies complexes, des règnes extrêmement complexes, mais on veut prendre une facette de ce règne-là pour en faire une facette républicaine, c'est clair.
Comment analysez-vous notre perception de l'État, l'idée de l'État? Julie Barlow.
L'État, il y a un écrivain américain, Adam Gopnik, qui l'a écrit comme... il essaie d'expliquer, lui, un peu comme nous, aux Américains. Il appelle ça un totem.
Un totem.
Totem, oui, un totem pour oui. les Français. Mmh. Ce que nous, on avait de la difficulté à comprendre et ce qu'on a fini par expliquer, c'est que l'État agit. L'État est quelque chose avec une vie qui agit sur la société française. Et tout le monde critique beaucoup l'État, mais tout le monde y croit. En même temps, et ça, c'est une grande différence entre les Américains, par exemple, peut-être même les Britanniques et les Français. Les gens croient quand quelque chose va mal, souvent en Amérique du Nord, on va blâmer l'État. Ici, on va demander pourquoi l'État ne fait pas plus pour régler la situation.
C'est quoi. Le père. L'État a remplacé le père détrôné à la Révolution, voilà. Dieu détrôné à la Révolution. Voilà. On l'a remplacé par l'État. C'est ça,
Français,
Christophe Campos?
C'est une conception assez Hobbesienne, si on peut dire, de l'État. Mm-hmm. Hobbes, qui avait parlé de Léviathan, le monstre auquel l'humanité, enfin, les citoyens donnent leur liberté.
Voilà.
Et l'État, donc, agit pour eux et, à la limite, peut les brimer parce que c'est dans leur intérêt qu'il le fait.
Et Rousseau, bien sûr, par exemple.
Je pense que c'est une conception que les Français ont adoptée sans le savoir, mais de façon très, très directe. L'État, il passe le plus clair de leur temps à se sentir brimé, à se plaindre, mais à accepter.
Mm-hmm. Voilà, exactement.
Et
exactement.
C'est toujours, en dernière analyse, un énarque qui prend la décision pour tous. En fait, le pouvoir, il est là. Hein. Oui, Vous analysez l'énarchie aussi.
Mais attention, il y a une posture là-dedans, parce que c'est confortable pour les autres de laisser l'énarque décider. Regardez les émeutes à l'heure qui viennent de se passer dans les derniers mois. Tout le monde blâme les élites, les énarques, c'est la faute aux élites. Il y a 3 millions à 4 millions d'employeurs qui n'embauchent pas Mohamed Farek ou Fayed et parce qu'ils s'appellent par ces prénoms-là, tout simplement. Et c'est complètement en dehors de l'État, ce problème-là, au contraire. Mais l'État, on veut croire à la...
C'est une façon de se décharger de ses responsabilités.
Oui, et par la suite, tout le problème est figé un peu parce que l'État, et on l'a vu, les gens réfléchir au problème, l'État me perçoit comme un être, un corps qui ne peut pas faire de compromis avec les traditions de l'État. Et donc, on ne peut pas, le communautarisme, on ne peut pas laisser rentrer ce genre de bon, on l'a même entendu décrit comme une maladie américaine, ces idées, les communautés, la façon d'affirmer la discrimination positive, on croit qu'on appelle ça ici. Et donc, on voit un État qui ne veut pas bouger. Mais,
qui prétend ne pas bouger.
Ou qui ne peut pas bouger.
Il porte à la fois le passé et le devenir.
Mais je vous rappelle que l'Alsace est un régime concordataire au niveau de l'enseignement. Donc, en fait, le compromis est inhérent au système, mais il n'est pas affirmé.
Voilà.
Il est caché. C'est ça la différence.
On marque une seconde pause.
La médiathèque de Canal Academy, c'est plus de 800 émissions en libre téléchargement. Vous avez aimé ce programme ? Vous avez apprécié cette émission ? Vous aimeriez réentendre cet académicien ? Retrouvez cette émission dans la médiathèque de Canal Academy. Le téléchargement est gratuit.
Voilà, éclairage autour de nos invités, des invités de marque qui viennent d'outre-Atlantique, des journalistes Jean-Benoît Nadeau, Julie Barlow, Passifoussée française, édition du Seuil, puis Christophe Campos qui a organisé récemment à l'Institut hongrois le colloque Stéréotypes et prototypes nationaux en Europe. C'était les 4 et 5 novembre dernier. C'était organisé par le Forum des langues européennes à Paris. On a parlé d'histoire, on a parlé de l'État. Encore une question sur l'État. Le modèle français se veut-il exportable, et pensez-vous qu'il puisse être exporté? Jean-Benoît Nadeau, d'abord.
Ben moi, je crois qu'il a été exporté dans certains de ses traits, notamment, bon, prenons le Code civil, qui est une émanation de votre conception de l'État. Ce Code civil-là a été repris dans de très, très nombreux pays. À l'heure actuelle, il y a une cabale qui est en cours parmi les grands cabinets des entreprises multinationales anglo-américaine notamment, comme quoi le Code civil est inefficace en droit des affaires, parce qu'ils veulent se référer plus au common law. droit est con. Donc, ce droit-là est extrêmement influent dans bien des pays. Ce n'est pas seulement une question de lien colonial. Bien des pays ont un droit d'inspiration civiliste parce que c'était pas une mauvaise idée. Votre conception de l'État a une très forte implication dans votre façon de penser vos relations extérieures. L'Europe, telle qu'elle est imaginée, est une entité supranationale qui découle d'une certaine conception de l'État où l'État est au-dessus des choses et impose des règles.
Donc c'est la France qui s'est propagée en Europe.
D'une certaine manière, dans sa conception, pas entièrement, hein, mais dans sa conception, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il est une vision économique qui découle d'une certaine vision de l'État, d'une certaine idée de l'intérêt général qui est radicalement opposée à ce que nous, on vit en Amérique du Nord, où nous sommes dans un libre-échange où il n'y a pas d'entité au-dessus des États-Unis ou du Canada. Chaque État est autonome et totalement souverain dans sa relation de libre-échange avec les autres. C'est une conception radicalement opposée à celle qui est en Europe. Et je pense que la France est un des grands paradigmes du monde occidental avec les États-Unis parce qu'elle représente une conception autre, alternative à une conception, comme j'utilise le terme anglo-américain parce que j'aime pas votre utilisation du terme anglo-saxon. Je préfère le terme anglo-américain.
Vous l'analysez d'ailleurs, le terme anglo-saxon, la façon. Quelle est notre définition?
C'est un millefeuille de politiquement correct, de choses que vous ne pouvez pas dire sur votre système. Monsieur Campos le disait, les clichés servent souvent à définir les autres par la négative. Et une des raisons de l'utilisation systématique du terme anglo-saxon, c'est qu'une partie des élites françaises n'aiment pas dire ce qu'est un Français. Ils ont peur de passer pour franchouillard, pour rétrograde, lepiniste, extrême droite. Et donc, ils préfèrent dire par la négative ce que les autres sont et ce qu'ils ne sont pas.
Donc, c'est un bouc émissaire.
C'est un bouc émissaire. Ceci dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent dire quand ils disent ça? Là, c'est une autre histoire. Là. On peut en parler très, très longuement. Essentiellement, la France est une société qui est structurellement catholique, pyramidale, écuménique, uniformisante, égalitariste. C'est exactement, c'est structurellement formé comme l'Église catholique.
Hiérarchisée, en fait.
Mais elle est laïque. Elle ne peut pas le dire qu'elle est catholique. Et quand elle dit anglo-américain, elle veut dire protestant. Elle veut dire une société basée sur la communauté, sur la base qui s'est montée un système. Mais elle ne peut pas dire société protestante parce que si elle dit ça, elle dit catholique d'elle-même. Et si elle dit catholique d'elle-même, elle va contre le principe de laïcité. On est dans un millefeuille de politiquement correct.
Il y a un arrière-fond religieux là qui renvoie à des choses très enfouies.
Il y a un arrière-fond républicain aussi.
Républicain, oui.
Parce que rien n'interdit à la France d'être catholique structurellement et d'être républicaine laïque en même temps. Rien ne l'empêche. Mais il y a toute une série d'éléments historiques qui font qu'on ne peut pas dire ça.
Christophe Campos, vous partagez ce point de vue, là, cette analyse, ce décryptage religieux de certains termes?
Oui, sauf que je prendrais un peu de recul dans la mesure où je crois qu'il faut parler surtout de représentation plutôt que de réalité. Mm-hmm. Toutes ces conceptions sont des représentations. Alors, la façon dont les étrangers ou les voisins se représentent la France, tout ça a un fondement. La façon dont les Français se perçoivent est fondée également. Mais la réalité n'est jamais tout à fait la même chose que la représentation. Je prendrai un mot qu'on a utilisé pas mal récemment. Les Français se sentent un petit peu étonnés par le fait qu'on les considère comme arrogants. C'est un mot qui revient quand les Français, les diplomates, les hommes d'affaires se disent « mais on a l'impression que nous sommes arrogants, l'étranger, comment ça se fait ?» C'est une représentation qui est assez commune en Europe. Dans les sondages qui ont été faits par les participants de notre colloque, et il y a un livre qui est apparu récemment qui s'appelle « Pourquoi les Français sont les gens les moins fréquentables de la planète ?» C'était également le résultat de sondages en Europe. Le mot « arrogant » revient. Alors, pourquoi est-il là ? Trois raisons. J'ai appris ma rhétorique en France, donc je fais ça en trois parties. trois raisons. D'abord, dans la communication, le français, à la différence des anglo-saxons et des germaniques en général, a tendance, lorsqu'il parle à quelqu'un, et lorsque le sujet l'intéresse et que l'interlocuteur l'intéresse, à élever la voix, à se pencher en avant, au grand désespoir des ingénieurs sons, et à gesticuler. Nous sommes quatre autour de la table. Je suis le seul à ne pas gesticuler depuis tout à l'heure.
Et à ne pas interrompre également.
Effectivement, alors, pour ce que le français perçoit chez un autre français comme de l'intérêt, une participation à la conversation, eh bien, un anglais, un allemand sentent comme une agression. On se rapproche d'eux et on parle plus fort. Ça, c'est un fait linguistique tout à fait incontestable, c'est mesurable. Et ça crée une représentation un petit peu difficile au départ.
Donc, premier critère de l'arrogance, la posture physique quasiment.
Oui, c'est ça. Réciproquement, le français va trouver l'anglais hypocrite, difficile à comprendre, parce qu'il n'a pas l'air de s'exposer.
Fuyant, énigmatique.
Il ne dit rien. Deuxième réalité, je crois, c'est que la France a tendance à baser son système intellectuel sur la confrontation rhétorique. Les Français apprennent à débattre, à défendre un point de vue contre un autre. Vous l'avez d'ailleurs bien dit dans votre livre, même si c'est faux, on aime bien faire une belle argumentation, puis ensuite on abandonne, on dit c'était faux, parce que je prends le point de vue inverse maintenant. Alors cette attitude est perçue à l'étranger, et c'est l'habitude que prennent les gens que la France exporte, elle est perçue comme étant également arrogante, parce que les Français veulent imposer un point de vue dont on voit tout à fait qu'il est faux. Et d'ailleurs, le lendemain, ils disent oui, j'ai accepté ça. Et donc, ayant l'habitude de discuter avec d'autres énarques ou d'autres normaliens, les Français, rencontrant des étrangers, leur imposent une sorte de structure rhétorique que les autres acceptent mal. Et puis, troisième facteur, je crois, dans cette représentation, c'est que, effectivement, vous avez prononcé tout à l'heure le mot de l'exportation. Est-ce que l'idée de l'État peut être exportée? Oui, la France a l'habitude de considérer que ce qu'elle a conçu chez elle est exportable. Depuis Napoléon, depuis la Révolution, on a voulu exporter, imposer, dire mais puisque c'est rationnel, puisque ça marche bien en France, ça devrait plaire à tout le monde. Mm-hmm. À ce niveau idéologique...
Les trois mises ensemble, ça fait un cocktail d'arrogance.
Oui, voilà.
Ouais.
Bon, c'est une représentation, parce que les Français eux-mêmes ne sont pas forcément plus arrogants que les autres.
Voilà, c'est malgré eux qu'ils se présentent souvent aux autres de cette manière. Vous le percevez comme ça, Julie Barrault ? Vous qui êtes anglophone...
Vraiment les mêmes, oui. En fait, j'ai eu une expérience un peu avec cette idée de l'arrogance, mais on a repris les mêmes idées. On est absolument d'accord avec les idées qui viennent d'être exprimées. Mais on l'a vu d'une façon un peu différente. Puisqu'on avait beaucoup d'Américains, beaucoup de visiteurs qui sont venus chez nous et qui ont eu la même réaction dans les relations vraiment quotidiennes avec les Français. Nous, on a réalisé, après avoir vu que tout le monde avait les mêmes réactions, les Français sont arrogants, ils font ceci, cela, que dans le fond, il y a une grande différence entre ce que le Français considère dans l'espace privé et l'espace public, comparé à l'américaine. Souvent, quand les gens parlent ou rentrent dans le magasin d'un Français ou sont en contact avec un Français, l'Américain, l'anglo-saxon, va rentrer par accident dans un espace privé en pensant que c'est un espace public. Par exemple, le magasin, que nous, on considère comme une extension de la rue, l'Américain rentre dans le magasin, il s'attend à ce que ce soit exactement comme dans la rue. C'est-à-dire qu'il ne dit pas bonjour au commerçant, il ne dit pas au revoir, c'est au commerçant de venir lui servir, quoi. Et la réaction des Français est forcément, ils sont forcément insultés par ce genre de comportement-là, parce que pour eux, le magasin est l'extension de la vie privée et l'espace privé. Et évidemment, quand on rentre dans la maison de quelqu'un, on dit bonjour et on dit au revoir. Et
donc, ça amène à des malentendus terribles.
Voilà, exactement. Et on a eu l'expérience l'autre soir dans une kiosque, même une kiosque ouverte sur la rue. Il faut dire bonjour quand on rentre en France et au revoir quand on sort. J'ai amené ma nièce qui est en visite avec nous, un enfant assez bien élevé. Je lui ai dit qu'il faut absolument dire bonjour quand on rentre. On était dans un quartier touristique où le commerçant n'avait pas l'habitude d'avoir beaucoup de gens. Elle a dit bonjour en rentrant. Il a dit oh! Il était tout étonné, tout très content. Il lui a offert un chewing-gum comme cadeau parce qu'elle avait eu la politesse. Mais la plupart des touristes ici ne comprennent pas ça. Ça, il y a beaucoup de répercussions de cette idée-là, l'espace privé, l'espace public, dans l'argument, la façon de confronter, la façon d'aborder les gens, commencer une conversation, même la façon de manger, qui suit des règles, qui est une activité publique en France et qui suit une logique et des règles. Et les Américains ne comprennent pas du tout ça. Pour eux, on peut se promener dans la rue avec un café, il n'y a pas de problème, tout le monde mange comme il veut, c'est un acte privé. Et donc, ils ne comprennent pas qu'ils pensent que c'est une...
Chez nous, c'est très social.
c'est très social et ça suit des règles, quoi. Et ça crée beaucoup, beaucoup de malentendus entre les Américains, les Nord-Américains et les Français.
On marque une troisième pause.
Vous écoutez Canal Academy, la suite de votre programme dans un instant.
Voilà, retour avec Pas si fou, c'est français, aux éditions du Seuil, Jean-Benoît Nadeau, Julie Barlot, nos deux invités, journalistes canadiens au magazine L'Actualité, et puis Christophe Campos, ex-directeur de l'Institut britannique de Paris, qui a tout à l'heure énoncé un certain nombre d'arguments qui illustraient l'arrogance à la française. Jean-Benoît Nadeau, vous voulez en ajouter un quatrième?
Ah ben je crois qu'il y a un quatrième point dont M. Campos s'est approché. Je pense que les Français se voient comme une grande nation. Et c'est un panache français très, très fort. J'ai rencontré à Ottawa l'ambassadeur de France au Canada et je lui ai demandé, dites-moi comment ça se fait que la France compte. Il dit, mais monsieur, votre question est parfaitement insolente. Il dit, la France est influente parce que la France est la France. Mais encore, on en a parlé, mais ça, c'était l'essentiel de sa réponse. Et je pense qu'il ne se dédierait pas 3 ans plus tard. Je pense que les Français sont les Américains d'Europe, dans ce sens qu'ils ont un très fort sens de leur destinée en tant que peuple. Ils ont un très fort sens. Ils n'ont pas peur de parler pour les autres. Ils n'ont pas peur d'être déplaisants quand c'est nécessaire. Et de façon très ouverte.
Mais il faut que le rêve corresponde à la réalité aussi. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'écart.
Bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait trop d'écart, mais vous n'avez pas peur de mener une politique. Moi, je viens d'un pays qui est vraiment une puissance moyenne. Le Canada, là, c'est vraiment moyen.
Nous, on veut pas
la première terre d'émigration du monde.
Nous, on ne veut pas être déplaisant. Bien sûr, des fois, les Français vont faire des choses qui ne correspondent pas à leurs principes juste parce qu'ils se sentent autorisés à le faire. Le Rainbow Warrior, le Rwanda, le rôle pas très clair de la France au Rwanda, le Rainbow Warrior, les essais nucléaires en Polynésie en 95, etc. Je suis pas là pour dire c'est bien ou mal, je suis simplement là pour dire vous avez pas peur quand c'est le temps de le faire d'être déplaisant, et là réellement déplaisant.
Donc on passe pour un peuple plutôt sûr de lui.
Tout à fait.
Plutôt sur de lui qui va jusqu'au bout de son idée. Alors qu'en France, on aurait plutôt tendance à dire que la France se décompose dans une sorte de politiquement correct, de tiédeur généralisée.
Je dirais pas sûr de vous. Je dirais plutôt que votre désir d'être grand, d'avoir du panache, va faire que parfois, en tant que peuple, vous allez souvent prendre les moyens qu'il faut, qui sont pas des moyens plaisants.
Puis, pour être à la hauteur.
C'est l'idée de tenir son rang. Exactement. Et cette idée-là est très, très forte chez vous.
Christophe Campos.
Au cours de ma carrière universitaire, j'ai fait un cours plusieurs années de suite sur les racines de l'identité française. C'était pour des étudiants britanniques qui faisaient ça dans le cadre de leur licence. Je me souviens avoir posé une question d'examen sous forme d'une liste de termes avec le mot « grand ». Mm-hmm. L'avenue de la Grande Armée, la très grande bibliothèque, le train à grande vitesse, la Grande Arche de la Défense, etc. On peut en trouver facilement. Voilà le sujet d'examen.
Revient tout le temps. Enfin, c'est souvent.
Le concept de grandeur, en fait, on a consacré un chapitre au complet à ce concept-là dans le livre, parce qu'effectivement, c'est un concept... Il y a beaucoup de choses qui sont très affirmées en France associées à la grandeur. Et par exemple, pour un Nord-Américain... qui veut surtout valoriser le, comment dire, pas l'égalité dans le pays, mais le plus petit commun dénominateur. Exactement. Et ça, c'est plus ce qu'on va valoriser, tandis qu'en France, et ça veut pas dire que la société américaine est plus ou moins égalitaire que la France. Je pense que la France est beaucoup plus égalitaire à bien des façons que les États-Unis. Mais c'est une façon d'affirmer, et ça choque les étrangers, cette espèce de confiance. Même si en France, en cette période de morosité maintenant, on ne le ressent pas du tout. Mais l'identité de la France, le pays, est quand même construit sur des valeurs universelles qui remontent avant la Révolution française. On ne peut pas défaire, c'était une des thèses de notre livre, on ne peut pas défaire toutes ces idées, même si la France est une moins grande puissance depuis le début du 20e siècle. On ne peut pas enlever tout ce qui a formé la mentalité et les valeurs des Français. Vous êtes peut-être maintenant en situation où là, ça ne s'accorde pas avec la réalité et vous cherchez des solutions, une façon de réagir, de s'adapter, quoi. Mais ça va rester une partie de l'identité française, si vous voulez ou pas.
Alors, justement, il y a 6 mois à peu près, les Anglais ont célébré en grande pompe la victoire de Trafalgar. Austerlitz, grande victoire napoléonienne, comme chacun sait, le 2 décembre, n'est pas passé quasiment inaperçu, mais enfin, n'a pas reçu peut-être tous les hommages qu'une telle victoire aurait pu recevoir dans un pays comme la France. Donc, est-ce que tout cela, c'est vraiment valable? Est-ce que les Anglais ne sont pas finalement tout aussi adeptes du culte de la grandeur que nous?
Oui, ce sont des Européens. Cette grandeur-là, elle est présente partout. Vous savez, Tocqueville, dans sa Démocratie en Amérique, un des chapitres les plus intéressants dans le deuxième tome, celui sur l'évolution des mentalités, discute à un moment donné du fait qu'un des effets de la démocratie en Amérique, c'est la disparition de la grandeur dans la façon dont les gens se représentent eux-mêmes. Et c'est une des choses qui nous a mis la puce à l'oreille sur sa fonction en France. Les gens agissent en France pour être grands. Et c'est une chose affirmée. Le Panthéon, c'est aux grands hommes la patrie reconnaissante. Et c'est la patrie est inférieure aux grands hommes. Là. C'est quand même quelque chose.
Ce n'est pas le nivellement. On ne veut pas de nivellement. Non, exactement. Et c'est l'excellence. Non, c'est ça, ce culte exactement. De l'excellence.
J'ajouterais, on pourrait développer.
Et les Britanniques aussi, d'une certaine façon. Quand
oui,
même.
Mais j'ajouterais aussi le mot gloire, qui va avec grandeur.
Oui, ce concept-là.
On pourrait développer la même chose, mais c'est la même idée.
Gloire et grandeur, mais ce n'est pas typiquement français, je disais à l'instant, avec, par exemple, Trafalgar. Comment les Britanniques voient cette idée de la grandeur et de la gloire?
Les Britanniques sont un peu fiers de célébrer des victoires qu'ils ont eues dans un passé lointain. Il y a une sorte de mythe de fondation dans Trafalgar aussi, parce que la puissance britannique, c'est une puissance maritime, et Trafalgar, c'est la... Avec le fait de couler le Bismarck dans la Deuxième Guerre mondiale, ça a été et la Grande Armada, bien sûr, ce sont les moments où la puissance maritime de la Grande-Bretagne s'affirme. Que ça a été contre la France ou pas, d'ailleurs, à Trafalgar, il y avait plus de navires portugais que français. Bon,
oui. Mais ça relativise...
Mais la France est un ennemi de poids.
C'est l'éternel rival, plus que l'Allemagne.
Oui, le frère mal aimé, je dirais.
La Grande-Bretagne.
J'ai intitulé un article dans un livre sur l'entente cordiale, j'ai intitulé l'article « Hypocrite français, mon semblable, mon frère ». Ça, c'est le point de vue des Anglais sur les Français. Et je pense que les Français ont la même idée sur les Anglais. Mon semblable, mon frère, mais je l'aime pas, mais on est quand même très frères.
Et l'Allemagne?
Oh, vous savez, peut-être... Cette espèce d'hostilité qu'il y a eu entre la France et les Allemands, moi, j'ai toujours perçu que c'était beaucoup plus les Allemands qui étaient hostiles aux Français, historiquement, que l'inverse, d'une certaine manière. Les Français étaient hostiles parce que leur place en Europe était, sur l'Europe continentale, était remise en cause. Il avait été jusqu'à milieu du 19e siècle le peuple le plus populeux, la nation la plus populeuse du continent, et leur place a été remise en cause. Et ils ont été effectivement agressés sérieusement en 1870 par les Allemands.
Et en plus, moi j'ai appris l'histoire sur la 4e République, et on nous disait clairement, nous on les a aidés à faire leur nation, la France a aidé l'Allemagne à se former, et puis 10 ans après, ils nous battent à la guerre.
Mm-hmm. Ouais. Gilles Berlot.
Nous sommes en train d'écrire un deuxième livre dans le même esprit sur l'histoire de la langue française. Et on a découvert un fait intéressant, en fait. Les Anglais ont commencé à se distinguer, à s'affirmer en tant que culture nationale par rapport aux Français, parce qu'évidemment, il y avait des rois de France qui étaient là pendant 4 siècles. Et la langue anglaise s'est développée à ce moment-là. Et l'effort, c'était de faire sortir l'influence française, au moins dans la tête des gens. En réalité, la langue française est très, très, très présente dans la langue anglaise, beaucoup plus que les gens le pensent. En fait, toutes les racines latines sont en réalité, pour la grande majorité, des mots qui viennent du français. Contrairement aux Français, qui n'avaient qu'à distinguer du latin. parce que c'est le latin, la racine. Et ça remonte quand même à beaucoup plus loin. En plus, le latin est mort. Et donc, les Français n'ont plus aucune attachement, rivalité historique comme les Français l'ont. Les Anglais l'ont encore avec la France, je crois. Et c'est moi, quand j'ai jamais appris, quand j'ai appris l'anglais quand j'étais jeune, que la France a eu un tel impact sur notre langue. C'est une sorte d'histoire, de secret historique effacé qui permet à la culture anglaise de garder une espèce de fierté indépendante du français, mais ça reste encore, je crois. Il y a des racines encore de cette rivalité culturelle.
Alors justement, je voulais conclure un petit peu cette émission par votre avis sur l'état de la langue française, son rayonnement. Est-ce que vous dites le complexe de la langue ? On est complexé avec notre langue, elle est plus appréciée, le français est plus apprécié en dehors des frontières de la France qu'en certain... France même.
Non, mais oui, et je penserais qu'en fait, elle est très enseignée. Hein. C'est la langue la plus enseignée avec l'anglais.
Après l'anglais.
Bien avant l'espagnol, bien avant l'arabe, bien avant l'allemand, bien avant le portugais. Là, je parle comme langue d'apprentissage. Mais dans les élites françaises à l'heure actuelle, il y a un certain désamour de la langue dans certaines catégories parce que la langue ici a toujours une fonction nationale. Et comme depuis la Deuxième Guerre mondiale, le nationalisme a très mauvaise presse, le patriotisme.
Elle en souffre en retour.
Il y a une espèce de choc à rebours contre la langue française comme affirmation nationale. Et moi, c'est ce que je constate à l'heure actuelle en France. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter sur le long terme ou non? Je ne sais pas, mais il est clair qu'il y a une attitude en France, cette espèce d'anglophilie très, très forte qu'on voit dans les élites, qui n'est pas nouvelle. Elle a eu lieu au 18e siècle, elle a eu lieu au 19e siècle. À mon avis, c'est un vieux peuple qui va trouver ses marques. À ce moment, il les cherche.
Christophe Campos?
Le français se porte très bien. J'ai vu dans le journal, il y a 3 semaines, le mot « tramino ». C'est quelqu'un qui travaille dans les transports urbains. Une langue qui peut continuer à créer des mots comme ça, tout à fait vivante.
C'est intéressant. On a constaté pendant notre recherche sur ce prochain livre que, en fait, on parlait tout à l'heure du modèle français, à savoir s'il est exportable ou non. Et il est très exporté par les écoles. Et la grande majorité des ex-colonies françaises gardent le système scolaire, le modèle français. Et le français est quand même enseigné. Et c'est la langue d'école dans toutes les ex-colonies en Afrique, par exemple, en Afrique, pas en Afrique du Nord. Et c'est intéressant, le français se porte, tous les élites se plaignent de la qualité du français. Je pense que c'est un effet un peu du fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui le parlent, qu'il y a beaucoup plus d'influence d'autres langues et beaucoup d'anglais, pas mal d'anglicisme quand même. Mais le français est de plus en plus parlé et reste encore la langue de promotion sociale dans bien des endroits au monde. Ceci dit, ce qu'on a découvert, c'est que la France, il y a 180 millions de francophones dans le monde, la France, les Français ne sont pas très, très conscients de leur force dans le monde, avec tous ces francophones qui regardent vers la France.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup pour toutes ces analyses sur l'esprit français, les traits, les caractéristiques que l'on peut retrouver, bien sûr, dans vos ouvrages « Pas si fou, c'est français » aux éditions du Seuil, Jean-Benoît Nadeau et Julie Barlot. Vous avez le titre de votre prochain ouvrage ?
L'aventure de la langue française, on l'aime pas beaucoup, il est pas très euphonique.
L'aventure de la langue française.
Il est écrit en anglais d'abord, ça s'appelle The Story of French.
Pour 3 éditeurs anglo-américains.
Voilà. Grand intérêt pour la langue française.
La demande pour l'affaire française est réelle.
Merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup Christophe Campos. Je rappelle que vous êtes ex-directeur de l'Institut britannique de Paris, que vous avez organisé récemment un colloque intitulé « Stéréotypes et prototypes nationaux en Europe ». C'était organisé par le Forum des langues européennes à Paris.